Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Bernard Guénier, président du cabinet de conseil et d'audit PwC France et Maghreb. Pendant cet entretien, vous allez entendre un dirigeant humaniste, optimiste, résolument tourné vers l'action et surtout, qui croit profondément que si nous agissons, nous pouvons. Pendant cet entretien, nous parlerons de culture, de la place de l'humain dans l'entreprise, de la pandémie, de l'après-pandémie, d'humilité, de leadership et de beaucoup d'autres choses. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Eh bien Bernard, merci beaucoup d'être là. Vous êtes le président du cabinet de conseil et d'audit PwC France et Maghreb depuis 2013. Vous êtes investi dans la transformation des métiers du chiffre, du juridique et du conseil, puisque depuis fin 2017, vous êtes président de la F3P, Fédération française des firmes pluridisciplinaires, et début 2019, vous êtes président du pôle de compétitivité Finance Innovation. Vous êtes quelqu'un d'engagé dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Vous avez fondé le mouvement de valorisation des réussites françaises qui s'appelle Let's Go France en juin 2016. Et en 2019, vous fondez le mouvement citoyen Move Up pour l'insertion des jeunes décrocheurs dont vous êtes actuellement le président. Vous êtes beaucoup président tout de même, hein, je le note. Vous présidez également Télémac, association de soutien aux élèves du secondaire de zones sensibles depuis janvier 2019. Alors ma première question, elle est toute simple. Votre parcours est en fait, quand je le regardais, extrêmement original, puisque vous avez fait toute votre carrière chez PwC jusqu'à en devenir le président. Quel regard portez-vous à titre personnel sur les personnes qui vont vous expliquer, qui vont expliquer aux jeunes générations que pour faire carrière, il faut changer de boulot tous les 3 ans ?
Écoutez, je leur dirais une chose très simple. Bah oui, continuez à le faire, faites-le, ayez des expériences. Et en fait, être chez PwC et ce que j'ai fait et mon parcours m'a amené en fait à changer de monde en réalité un nombre important de fois, à la fois géographiquement, mais aussi dans mes responsabilités. Donc, et c'est ça un peu le côté très intéressant chez PwC, vous avez beaucoup d'opportunités en permanence. Alors, pour l'illustrer très simplement, moi je suis marseillais d'origine, j'ai commencé à travailler à Paris après avoir fait des études à Aix-en-Provence, j'ai travaillé donc à Paris, puis à Marseille, puis à Shanghai en Chine en 1997, puis dans la Silicon Valley, je suis revenu en Europe, j'ai beaucoup travaillé à Londres et enfin je suis revenu à Paris en ayant pris divers types de responsabilités, ayant travaillé dans des bureaux très très différents, dans des contextes économiques variés et je dirais ce qui me caractérise finalement et qui à mon sens est quelque chose qui me construit, c'est la volonté d'être curieux, développeur constructeur, vous voyez, et donc aller surtout à la rencontre de la différence, à la rencontre de l'autre, qui à mon sens vous permet d'être un positif dès lors que vous acceptez l'altérité, si je peux utiliser ce mot un peu compliqué. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre les problèmes, pas de les bloquer ou de dire non. Et c'est un peu ce qui a caractérisé mon parcours, si je puis dire.
En fait, vous êtes un peu un hyperactif, ça se voit dans l'introduction que j'ai faite, et vous êtes d'autant plus hyperactif que je vous reçois également parce que vous avez sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Chef d'entreprise, ce que le monde attend de nous, patron, oserez-vous ». Alors j'adore le sous-titre « Patron, oserez-vous ». Mais alors, au-delà de « je ne sais pas où vous avez trouvé le temps d'écrire ce livre », mais pourquoi est-ce que vous l'avez écrit ?
Pourquoi je l'ai écrit ? Parce que je considère que nous sommes face à une crise de civilisation, en fait, hein, face à des urgences sociétales et environnementales très très importante, surtout dans les sociétés démocratiques qui remettent en cause nos modèles démocratiques, et que je considère que les patrons, les dirigeants, les entreprises en général doivent changer de pied, doivent faire les choses autrement, penser plus au long terme qu'au court terme, penser plus à leur rôle dans la société, au sein de la société, et que c'est une urgence vitale pour elles et une urgence pour la société aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et donc cette hyperactivité, ne croyez pas que c'est l'hyperactivité. Je m'appuie sur beaucoup de monde pour faire ça. D'ailleurs, je remercie toutes ces équipes avec qui je travaille, quelles qu'elles soient. Même mon livre, hein, soyons clairs. Et d'ailleurs, je l'ai indiqué dans mon livre. Je l'ai pas écrit tout seul. Ce n'est pas. Voilà, c'est un projet avec quelques personnes. C'est véritablement passer un message. Et de la même façon, lorsque j'ai des présidences d'autres organisations, que ce soit des associations dans l'insertion ou que ce soit chez PwC, ce qui compte pour moi, c'est le travail en équipe, c'est une vision commune d'un objectif, et c'est ce qui caractérise d'ailleurs l'entreprise, avec cette vision de long terme pour être un acteur dans la société, pas en dehors, ce qui, à mon sens, a caractérisé l'entreprise depuis plus de 40, 50 ans et même depuis très longtemps. Donc il y a un changement, je dirais, nécessaire pour trouver des solutions dans le monde de demain.
Alors c'est très intéressant parce que votre livre, je l'ai lu et on est mis dans l'ambiance en fait même avant le début du livre puisque votre livre s'ouvre sur une citation d'Albert Camus que j'adore. Je la connaissais déjà avant mais j'ai été très content que vous me la remémoriez et qui est la suivante: être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Est-ce que vous pensez que c'est si difficile que ça aujourd'hui d'être soi-même? En entreprise, bien entendu.
Oui, je pense que nous sommes soumis à des demandes contradictoires, que l'on soit jeune, vieux, peu importe, qui nécessitent d'être très ancrés. Il y a d'ailleurs, dans ce que nous sommes et dans le sens qu'on donne à ce que nous sommes, c'est-à-dire, c'est à la fois reconnaître ses forces et ses faiblesses, c'est reconnaître son imperfection en réalité, et donc aller chercher la solution pour moi, dans la coopération, dans le collectif. D'ailleurs, la crise l'a montré. Collectivement, nous avons bien vu que cette crise de sens, on retrouvait finalement nos fragilités, nous amenaient à retrouver un sens collectif. En tout cas, les individus ont su faire un certain nombre de choses en dehors de tous les systèmes en place qui, on peut le constater aujourd'hui, sont quand même très, très challengés, c'est le moins qu'on puisse dire, dans leur capacité à trouver des solutions face à l'incertitude. Et donc, seul le collectif, l'envie d'être ensemble, l'envie de trouver des solutions et la force de l'humain, et c'est ça qui m'intéresse.
Mais en fait, dans votre livre, vous parlez beaucoup de ce point-là. Enfin, j'ai presque envie de dire, on sent l'humanisme qu'il y a dans votre action. Et quand vous parlez de transformation, vous souhaitez, je vous cite, penser toute transformation pour et par l'humain. Nous le constatons actuellement, mais qu'il y a beaucoup plus d'humains, parce qu'on s'est aperçu pendant le premier confinement, donc il y a un an déjà, que ben, on avait des agents de caisse et que peut-être que l'agent de caisse de mon Carrefour était plus important que Alexandre Bompard, même si Alexandre Bompard est un très bon patron, que l'agent de caisse de chez Leclerc est plus important que Michel-Édouard Leclerc. Mais pour autant, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on a vécu une parenthèse enchantée? Et je vous dis ça parce que vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, un des patron emblématique d'un côté un peu humaniste et dû travailler pour les autres, qui est Emmanuel Faber, s'est fait évincer. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à l'ancien monde où, dans les grandes entreprises, c'est l'économique qui va prévaloir sur l'humain?
Écoutez, on peut se dire ça. Moi, je ne le crois pas du tout, du tout, du tout. Bien sûr, c'est un
C'est rassurant.
combat. C'est un combat. C'est pour ça que mon livre, je parle aussi dans mon livre de cette notion de face nord. C'est un chemin difficile. C'est le chemin de tous les chefs d'entreprise en réalité. Ce combat, il est devant nous et on n'a pas le choix en réalité. Pourquoi? Parce que, bon, il y a évidemment la planète. On a enfin pris en compte et compris que nous avions dans une économie extractive du XXe siècle. On a juste considéré historiquement que la planète était infinie dans ses ressources, alors qu'en réalité, nous avons un impact sur ces ressources et nous sommes en train de la transformer par notre impact. Et donc, nous ne sommes pas assez régénérateurs de cette planète, nous en sommes extracteurs. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la crise sociétale que nous vivons en termes d'inégalité a de profonds effets sur le regard qu'ont nos citoyens, sur le sens qu'a cette société, avec les gagnants en petit nombre et les perdants en grand nombre. Et donc, Moi, je ne crois pas que cette pression sociale va diminuer, elle va continuer à exister. Ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers et dans les quartiers défavorisés, et c'est pour ça que je suis moins engagé, c'est que je sais que notre jeunesse a une crise de sens. Quand vous parlez aux maires localement, quand vous parlez aux associations localement, vous comprenez que ces jeunes sont enfermés en réalité déjà. On parle d'enfermistes aujourd'hui dans la crise. Je peux vous dire que ces jeunes sont déjà enfermés et qu'il faut aller les chercher. On a trop laissé aller tout ça. Donc pour moi, le sens de cette action, c'est justement de prendre en compte tout ça, de donner un sens collectif. Et l'entreprise a un rôle à jouer. C'est ce que j'essaye de dire parce que c'est probablement un des derniers acteurs à avoir cette capacité à donner du sens, avoir une capacité de transformation de nos habitudes, de nos comportements, d'utiliser la technologie, l'innovation. Donc, lorsque dans mon livre, je dis qu'il faut à la fois faire de la compétition, la coopération, on a fait trop de compétition, pas assez de coopération, on a poussé trop loin la compétition et on a extrait beaucoup de ressources, même des ressources humaines, et il faut retrouver cet équilibre. La crise nous a montré ce chemin dans les actions des individus, dans la reconnaissance de ceux qui sont, comme vous le disiez, aides-soignants, caissiers. Il faut revaloriser ces rôles-là et ne pas considérer que l'humain, c'est être ceux qui gouvernent le monde. On est tous interdépendants. Et cette interdépendance, à la fois environnementale et sociétale, c'est bien sûr un combat, mais c'est une nécessité parce que j'ai la conviction qu'on ira de toute façon que de crise en crise, et ces crises vont avoir des effets encore plus délétères que la précédente. Donc, à un moment donné, il faut qu'on change. Et la responsabilité des patrons est forte. C'est pour ça que je leur ai dit « oserez-vous ».
Alors justement, vous êtes quelqu'un qu'on appelle de pouvoir, même si, et je le dis avec beaucoup de respect, mais en France, être quelqu'un de pouvoir, c'est un peu une mauvaise réputation. On se dit que c'est négatif, alors que je suis profondément convaincu que ce sont les gens de pouvoir qui peuvent faire changer le monde. Et en l'occurrence, vous êtes président d'une très grande entreprise, PwC, dans un métier, par ailleurs, réputé difficile. Donc en quoi votre entreprise, sur laquelle vous pouvez impacter directement, est plus humaine que vos concurrents, sans dire de mal de vos concurrents, mais plutôt en disant du bien de la vôtre?
Là aussi, c'est un combat. Je vous dis d'abord, moi, j'ai pas, contrairement à ce qu'on peut penser, un patron et un homme de pouvoir, je ne crois pas. En tout cas, pas pour moi. Mon poids d'influence est extrêmement faible, honnêtement.
Pas sur votre entreprise?
Oui, sur mon entreprise, oui. Mais je veux dire, quand vous dites de pouvoir, on donne le sentiment que c'est une vision large. D'influence. Oui, l'influence au sens de faire changer les choses, faire comprendre, éclairer demain, ça c'est le rôle de PwC, donc ça pour moi c'est très important, et pour pouvoir faire ça, il faut être cohérent, c'est-à-dire le faire aussi à l'intérieur de soi-même, à l'intérieur de l'entreprise. Et croyez-moi, c'est un combat pour nous, pourquoi? Et vous le dites, et vous avez raison de dire, dans les cabinets de conseil et d'audit, mais aussi de services intellectuels, la pression du service client est extrêmement forte. Nous avons un mode de travail qui fait que nous prenons des jeunes à la sortie des universités, des grandes écoles, on les amène plus loin. 90% d'entre eux nous ont quittés au bout de 3 ou 4 ans. C'est un peu notre modèle. Il est utile à la société, me semble-t-il, mais nous devons apprendre à écouter ces jeunes dans leurs demandes. Et ils changent. Je l'indique d'ailleurs dans mon livre. Ils nous évaluent. Ils nous notent. Et si nous ne sommes pas capables de donner du sens, de changer la façon dont nous travaillons avec eux, nous serons désinterminés, nous disparaîtrons quelque part. Et je peux vous dire qu'on a un travail considérable. Alors, nous faisons beaucoup de choses, mais je peux vous dire que le travail que j'essaye de faire comprendre à mes associés qui ont, comme moi, été recrutés il y a plus de 35 ans pour certains, c'est de dire, mais le monde a changé. Ce que vous acceptiez à 35 ans, les jeunes ne l'acceptent plus. Ils veulent faire les choses autrement. Le travail est un moyen. Il n'est pas, dans l'esprit de beaucoup de jeunes aujourd'hui, le travail est un moyen. Il n'est pas une fin en soi. C'est un élément de la vie. On voit bien les changements de comportement. Si nous ne sommes pas capables de répondre à cette attente, de donner beaucoup de sens à notre action, d'être dans la société, je le disais tout à l'heure, d'avoir un impact environnemental, de prendre les problèmes à bras le corps et pas simplement de regarder l'intérêt individuel et collectif, par exemple de mes associés qui sont les détenteurs de notre organisation, eh bien on se trompera de combat, on sera remis en cause. Et d'ailleurs, il y a des sites il y a un site qui s'appelle Balance ton cabinet, soyons clairs.
Oui.
Et ben ça, c'est à la fois, on peut le regretter, ce n'est pas forcément très positif. Donc mais c'est le monde dans lequel nous sommes. Et je pense qu'on a une capacité à trouver ce chemin, hein, cette face nord, pour nous-mêmes et pour d'autres entreprises. Voilà.
Et
Mais
justement,
justement,
dans
dans
votre
votre
livre,
livre,
vous
vous
parlez
parlez
également
également
de
de contribuer
contribuer
à
à
un
un
nouveau
nouveau
modèle
modèle
de
de
leadership
leadership
pour
pour
l'Europe
l'Europe
face
face
au
au
monde.
monde.
Quelles
Quelles sont
sont
les
les
grandes
grandes
lignes
lignes
de
de
ce
ce
nouveau
nouveau
modèle?
modèle?
Bah, si vous voulez, lorsqu'on regarde la situation géopolitique aujourd'hui, vous avez deux immenses pays avec des modèles très différents, la Chine et les États-Unis. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir un parcours qui m'a permis de me balader, si je puis dire, de passer d'un pays à un autre et de les comprendre, on va dire, un peu mieux, tout en reconnaissant que, en fait, on a du mal à comprendre la complexité de chaque pays. Mais ça, il faut savoir le reconnaître. Mais on a en face de deux acteurs qui se font un combat terrible. D'ailleurs, Biden, récemment, là, dans les dernières heures, continue la voie américaine que avait déjà lancée, même avant lui, les présidents américains précédents.
Oui, il y a des relents de guerre froide qui traînent
Il y a
depuis
des
ce
relents de
matin.
combat de hégémonique et de puissance.
Mmh.
Et au milieu de ça, vous avez l'Europe. L'Europe qui porte un modèle de valeur auquel je crois profondément, mais dont les modes de gouvernance, le trop grand nombre de pays pas suffisamment similaires empêchent l'action et la reconnaissance que l'Europe est un acteur très important. Le nombre de consommateurs, la capacité d'innovation de cette géographie est extrêmement importante. Elle est souvent remise en cause, vu des Français parfois, dans d'autres pays. Je pense qu'il faut retrouver pour moi le sens de l'Europe, c'est-à-dire le sens d'investir ensemble sur des choses importantes. Donc, quel type d'investissement qu'aucun pays ne peut faire tout seul? Quelle modalité de gouvernance en mode resserré, c'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument trouver un moyen au centre de l'Europe de trouver un creuset commun, un noyau fort, qui pose la question évidemment du couple franco-allemand. Quelle régulation voulons-nous face à l'extraterritorialité américaine, par ses lois extraterritoriales nombreuses, ou par les modalités de protection qu'a l'État chinois vis-à-vis de ses entreprises en Chine et sa capacité à les projeter à l'extérieur pour défendre, promouvoir un modèle dont nous ne voulons pas. Et si je dois choisir entre la Chine et les États-Unis, mon choix est fait. Je vais prendre les États-Unis, quoi qu'il arrive, parce que c'est quand même la démocratie qui est au cœur de tout ça, même si elle est elle-même très challengée aux États-Unis. Voilà. Donc c'est ça un petit peu la vision que moi j'ai de l'Europe. Et il faut réenchanter l'Europe, lui trouver un nouveau sens, parce que elle est, pour moi, elle doit être un exemple au-delà d'une puissance.
Bien entendu. Et moi, j'aimerais rappeler quand même pour les gens qui critiquent l'Europe, je fais une toute petite parenthèse, que quand même, nous sommes la première génération, doit être peu ou prou du même âge, à ne pas avoir depuis des siècles connu de guerre sur notre territoire. Et ça, on le doit grâce à l'intelligence d'Adenauer et de Gaulle qui se sont dit, on va peut-être arrêter de se taper dessus.
Plus jamais ça.
Exactement. Donc je trouve que rien que pour ça, soyons heureux d'être européens. Alors revenons à des sujets peut-être un petit peu plus légers, puisque là, on est quand même très très sérieux.
C'est sérieux.
Lorsque vous parlez de vous-même, je dois bien dire que j'ai été très impressionné et très heureux que ces mots soient dans la bouche du président, et je vais vous citer. Je n'ai pas fait les grandes écoles, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de chauffeur, je ne voyage pas en jet privé, et je ne toucherai pas de stock option, ni ne réaliserai de plus-value à mon départ de PwC. Est-ce que l'humilité est devenue une qualité requise pour un président ou un patron, selon vous?
Pour moi, oui. Pour moi, c'est absolument essentiel parce que lorsqu'on est un leader dans le monde de demain, on doit être celui qui est en capacité d'écoute, qui permet les choses. On est au service d'une organisation, on n'est pas celui qui la commande en réalité, on est celui qui le permet de s'exprimer et de faire s'exprimer tous les talents qui sont à l'intérieur et de le faire dans un écosystème. Pour moi, par construction, décider, et d'autres leaders que je connais ont cette approche, Certes, souvent, ils ne sont pas forcément jeunes, et je vais prendre un exemple, je vais en citer un, c'est cette capacité à laisser l'organisation avancer, décider, prendre et ne pas imposer. Donc, Xavier Lullard, par exemple, qui a une organisation extrêmement décentralisée, dont le principe d'autonomie de décision est très fort, a ça en tête en permanence, et il dit… moins je décide, mieux ça vaut, parce que je sais que l'action en sera d'autant plus forte. Ce n'est pas pour ça qu'il n'aide pas à la décision, ce n'est pas pour ça qu'il ne coache pas, ce n'est pas pour ça qu'il ne permet pas de faire avancer les sujets, mais il fait en sorte de ne pas en permanence avoir une approche descendante qui tue en fait les énergies.
C'est vrai que c'est extrêmement intéressant de voir les mutations qu'il y a actuellement. Et parfois, les personnes ont tendance à penser que la pandémie nous a révélé un certain nombre de choses, alors que finalement, la pandémie a été un accélérateur de tendances déjà présentes avant la pandémie. Mais selon vous, et ça sera l'avant-dernière question, qu'est-ce qu'on va retenir ou qu'est-ce que vous allez retenir de cette pandémie qui a commencé il y a un peu plus d'un an maintenant?
Cette pandémie, elle est le reflet de nos faiblesses. Et elle est aussi un accélérateur de tendance, vous l'avez dit. Donc pour moi, ce que je retiendrai de cette pandémie, c'est l'absolue nécessité du collectif pour nous protéger collectivement, que seul on ne peut rien, et que retrouver ce sens du collectif est absolument essentiel. Mais il faut aussi ne pas oublier, c'est à mon avis tout l'enjeu de la sortie de crise et la sortie de ce tunnel. On commence à voir la lumière, même si en ce moment on a des doutes, c'est de se dire, est-ce que on saura répondre à tous les enjeux qui préexistaient, dont certains effets se sont accélérés, et à mon sens, en sortie de crise, certains éléments vont réapparaître en matière de tension sociale. En matière de tension sur l'accès au savoir, l'accès à avoir une vie décente pour certains, va être un enjeu, à mon avis, absolument essentiel. Et les entreprises ne peuvent pas, dès lors qu'elles en ont les moyens, ce qui est probablement l'enjeu actuel, certaines n'ont plus les moyens de tout faire et elles doivent se concentrer sur leur propre existence, hein, soyons bien clairs. Mais pour celles qui en seraient sorties renforcées, elles ont un devoir de responsabilité d'aller plus loin et de contribuer à résoudre ces enjeux. Et c'est vrai pour tous les acteurs, que ce soit les médias, et on pourrait prendre d'autres éléments qui concernent les médias ou d'autres actions possibles pour elles, le gouvernement et l'État. L'État doit se remettre en cause de façon singulièrement forte. Les enjeux de territorialité, de proximité, la décentralisation, qu'est-ce que veut dire l'organisation administrative en France? Tous ces sujets sont encore et restent à adresser. Mais je suis extrêmement positif parce que l'humain a une capacité d'adaptation extraordinaire dès lors qu'on fait confiance au collectif.
C'est vrai que la capacité d'adaptation de l'humanité au sens quasi littéral du terme, on l'a bien mesurée pendant cette période. Alors, nous arrivons traditionnellement à la dernière question de cette interview, Bernard. Je vous ai demandé de travailler, puisque je précise que ces interviews ne sont absolument pas préparées, donc je vous remercie d'avoir joué le jeu. Par contre, je vous ai demandé de choisir un mantra ou une citation qui fait particulièrement écho en vous et pourquoi. Est-ce que vous avez eu le temps de la préparer ?
Alors, écoutez, bien sûr, je me suis prêté à ce jeu. Alors, mais vous avez déjà défleuré le sujet, puisque je voulais évidemment prendre la citation d'Albert Camus à la tête de mon livre.
Mais vous donc, pouvez tout à fait.
D'accord. Donc, si j'ai le droit, je vais garder cette citation. Alors, pour la petite histoire, j'aurais pu prendre celle d'Oscar Wilde qui s'appelle Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. D'accord. Mais je ne vais pas la commenter, parce que je trouve que c'est un vrai enjeu aujourd'hui, mais pour moi, parce que je l'ai mis en tête de mon livre, donc je vais reciter Albert Camus, hein, « Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. » Je pense que dans cette crise, dans le monde qui vient, avoir conscience de ce que nous sommes individuellement et collectivement, c'est en fait reconnaître notre notre différence, reconnaître notre individualité et reconnaître celle de l'autre. Et le courage, c'est de faire face à nos forces et faiblesses et faire face aussi aux forces et faiblesses de l'autre. Et donc, être différent, c'est du courage et ça se construit dans le temps et c'est ce qui fait, je dirais, le sens un peu de la vie.
Eh bien, écoutez, Bernard, mille merci d'avoir commenté cette citation et mille merci de savoir être différent. Et je vais vous livrer une citation qui fait écho à cette différence, qui est un tout petit peu plus légère. On va finir sur une note légère. Parce que c'est vrai que moi, je suis un diplômé de grande école de commerce. Et pour, quand on allait dans les cabinets d'audit, on avait tendance à dire qu'il faut rentrer dans le moule. Et j'aime à rappeler qu'à force de rentrer dans le moule, on risque de passer pour une tarte. Donc, Albert Camus avait bien raison, mais je le dis de façon peut-être... un tout petit peu moins joli.
Et d'ailleurs, si vous voulez, j'essaye de faire comprendre à mes équipes et à mes associés que, justement, nous sommes face à des individus et que chaque individu, on doit s'en occuper spécifiquement. C'est pour ça que chez PWC, on essaye d'avoir une expérience la plus personnalisée possible. Et je peux vous dire que c'est un combat, une face nord, qu'on n'y est pas encore, qu'on y travaille, mais on a beaucoup, beaucoup de travail encore à faire.
Eh bien, écoutez, Bernard, merci beaucoup pour le temps que vous avez eu la gentillesse de m'accorder. Merci pour votre différence, merci pour votre engagement, merci pour vos paroles et merci pour essayer de changer le monde de l'entreprise et la vision que les gens en ont. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.